Je trouve que Emmanuel Macron, aujourd'hui, en endossant ses habits militaires, ses accents guerriers, ses coups de menton où il annonce qu'il va envoyer des troupes en Ukraine, en faisant ça, il fait une opération pour complètement effacer l'actualité sociale et nationale. Il ne veut pas que l'on parle de ce que vivent les Français, la pauvreté qui grandit, des travailleurs pauvres. Et donc, il fait tout pour qu'on n'en parle pas. Il
nous donne
c'est la diversion. C'est maléfique, quelque part.
Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact, présenté encore une fois cette semaine dans notre sympathique studio de Paris. Nous logeons cette semaine résolument à gauche en compagnie du secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel. Bonjour.
Bonjour à vous. Merci pour votre invitation.
Bienvenue à bord. Ça me fait grand plaisir. Alors, vous avez été élu à l'Assemblée nationale une première fois lors des législatives de 2017, puis à la tête du parti longtemps dirigé par Georges Marchais, c'était en 2018, et puis finalement candidat au présidentiel 2022, où le PCF a fait 2,3%, un score que vous auriez sans doute aimé supérieur, mais quand même, vous êtes là. Vous avez été journaliste dans une précédente vie, comme votre père, correspondant pour l'Humanité, entre autres choses ou entre autres lieux, en Extrême-Orient, où vous avez vécu. Rebonjour et bienvenue dans notre petite émission. Je vous regardais préparer votre journée, caler vos rendez-vous, être un peu à la course. Et évidemment, je ne le dis pas pour vous éreinter en commençant, mais arrive-t-on à penser et à bien penser quand on est au sommet d'un parti, compte tenu de tout ce qui vous appelle, de tout ce qui vous aspire?
Alors là, vous posez le doigt sur un sujet très important. Vous avez raison de poser la question, parce que beaucoup de responsables politiques nationaux, quasiment tous, vivent à Paris. Même ceux qui se font élire en province, je pense à Marine Le Pen qui est députée du Pas-de-Calais, d'autres élus dans le Sud, ils vivent à Paris. Moi, non. Je continue de vivre chez moi,
dans
le Nord, à parcourir ma circonscription toutes les semaines. Je force mes collaborateurs, tout le monde, à organiser la semaine et mon agenda, de telle sorte que le jeudi, je suis dans ma circonscription et je rencontre les gens qui demandent à me rencontrer. Je tiens des permanences tous les vendredis matin pour répondre aux problèmes des gens qui veulent me voir. Et c'est extrêmement nourrissant. Et ensuite, ce que je fais en tant que chef de parti, c'est que tous les mois, je fais, que je sois en campagne ou pas en campagne, je fais 2 à 3 déplacements en France pour aller à la rencontre de nos concitoyens dans des territoires qui parfois n'ont jamais vu de responsable national. Ils sont très honorés de ma visite. Et là, je rencontre les élus, des chefs d'entreprise, des associations, des salariés. Et je fais une réunion publique le soir où ce n'est pas un meeting. Je leur donne la parole, ils me posent des questions et je réponds. Voilà comment moi, je fais tout pour garder les pieds dans la glaise, rester proche des
gens. Dans le réel, quoi.
Dans le réel, et être à l'écoute, entendre et mesurer ce qui se passe dans le pays. Prendre le pouls de la France et savoir comment il bat, qu'est-ce qui domine, quelles sont les inquiétudes, quelles sont les colères. Et c'est essentiel. Ceux qui vivent à Paris sous la cloche parisienne, dans leur bulle, sont coupés du réel.
Cloche ou chape de plomb?
Bon, les deux, ce que vous voulez, mais c'est terrible. Ça, c'est terrible.
Mais ma question était, y a-t-il du temps pour penser? Parce qu'être chef de parti, c'est d'avoir des convictions fortes, et de comprendre le monde. Alors, vous pouvez certainement le mieux comprendre au contact des gens, parce que je pense que c'est une très belle façon, prendre le pouls, c'est ce que vous disiez, mais réfléchir, avoir du temps long pour soi, et prendre même le risque de changer d'idée sur certaines choses, avec de nouvelles informations.
Bah, ce que vous appelez prendre le temps de penser, la manière dont moi je le fais, c'est quand je prends du temps pour moi, pour lire. Donc c'est quand je lis, que ce soit la presse ou des livres sur tel ou tel sujet. Prendre le temps de lire. Et puis la deuxième chose, c'est le temps consacré aussi aux loisirs et à la famille, parce que c'est du temps où on se pose, on déconnecte. et où on est parfois, voilà, on a des idées qui surviennent, qui surgissent. Par exemple, quand je cours, quand je fais mon footing toutes les semaines, pendant une heure, je sais que c'est parfois là qu'il y a des choses qui, voilà.
Il vous arrive de changer d'idée? Parce que on reproche souvent aux politiciens de maintenir une langue de bois, alors que, je dirais, la pensée active, c'est prendre le risque aussi de changer d'idée et de risquer devant les journalistes, devant la presse, devant le public, devant les électeurs, de dire, ben oui, je pensais ça et aujourd'hui, je pense ceci.
Ouais, on a parfois des... Oui, ça nous arrive. Alors d'abord, oui, ça m'arrive. Ça m'arrive même de sécher devant une question, de dire à une personne qui m'interroge, je suis désolé, j'ai pas la réponse, je peux pas vous répondre, laissez-moi le temps de me renseigner, d'y réfléchir. Et donc, on n'a pas la science infuse, on peut pas être calé sur tout. Et puis, parfois, face à des sujets d'actualité, ben, on peut pas tout de suite avoir une réaction toute prête. On est dans l'immédiateté aujourd'hui. On est dans la politique du tweet où il faut savoir répondre en quelques dizaines de signes. Et c'est pas bien.
Enfin, c'est un stress, ça, pour un chef de parti d'avoir cette idée qu'il est en tout temps nécessaire peut-être de répondre.
Ouais, je trouve que ça nourrit mal la politique. Au contraire, il faut prendre parfois le temps de discuter avec d'autres, d'écouter, de se poser, de réfléchir pour pouvoir avoir une parole la plus juste possible et réagir à chaud sur tous les sujets tout le temps, c'est ce qu'on nous demande, mais je le regrette, ça ne nous permet pas d'avoir le recul nécessaire.
Je vous ai entendu parlant de votre jeune fille à l'époque qui avait 9 ans et diagnostiquée d'un cancer, que vivre c'est lutter. Et c'était comme si cette petite phrase était applicable à tout dans votre vie et non pas qu'à cet extrême combat qui est celui pour sa vie. Vous le pensez toujours, vivre, c'est lutter?
Bien sûr, bien sûr. Que ce soit pour faire respecter sa dignité au travail, que ce soit pour lutter contre la maladie. D'ailleurs, on dit lutter contre la maladie pour vivre. Que ce soit même dans une vie de couple. Faire vivre l'amour, c'est un combat de tous les instants.
J'enlèverais le même, surtout aussi dans une vie de couple.
Oui, mais c'est pour dire que, on pourrait dire que ça ne s'applique pas, par exemple, dans une vie de couple, je dis si, même là, parce que l'amour est un combat de tous les instants. Ça s'entretient tous les jours. Donc, vous voyez, on utilise même ces mots-là. Mmh. Et donc, bien sûr, c'est une phrase qui s'applique à l'existence humaine. Parce que l'être humain, c'est ce qui nous différencie aussi des animaux. C'est ça, c'est que nous avons cette capacité d'agir, de réagir, d'agir sur notre environnement, notre réel, et de le transformer de cette manière-là, avec en interaction avec d'autres êtres humains. Et c'est beau, la vie, pour ça.
Alors, je ne veux pas entrer dans l'intimité de votre vie, mais le chef de parti, il prend beaucoup de place dans la vie du couple.
Bien sûr.
Et le vôtre.
Bien sûr, heureusement que j'ai une femme qui est aussi engagée et donc on partage aussi cet engagement pour transformer la société, pour qu'elle soit plus juste, plus humaine, plus fraternelle, et donc on en parle beaucoup. D'ailleurs, quand je vous dis que je rentre chez moi, c'est aussi pour avoir une vie
de
famille, de couple, et donc j'ai besoin qu'on se retrouve avec ma compagne, qu'on partage des moments ensemble, qu'on prenne des petits-déj, des repas. Et même ça, c'est un combat, hein. Faut se battre pour avoir le droit de pouvoir passer quelques temps ensemble, mais c'est essentiel.
Le combat politique, pour vous, il est lié à une ambition, et ça ne serait pas vilain de le dire, je ne le vous reprocherai pas, ou à un idéal? Et où?
Non, c'est les deux. D'abord, moi, je suis quelqu'un qui défend un idéal, qui a des convictions, ça me pousse. C'est ça qui, tous les matins, quand je lis la presse ou quand j'entends les infos, j'entends des choses qui me révoltent et j'ai envie de m'engager. C'est ce qui me fait bondir, c'est ce qui me fait réagir. Donc, c'est mon idéal, c'est mes convictions qui me donnent de l'énergie. Et puis après, je pense qu'il faut avoir aussi un petit esprit compétiteur, de vouloir y aller, d'être
gagner,
et ça, c'est aussi dans mon tempérament. J'ai toujours eu ça au fond de moi, quoi.
J'en ai eu la certitude en vous serrant la main tout à l'heure que vous étiez plutôt du type à aimer gagner que de perdre.
Ouais, ouais.
Alors quand on fait 2,3% au présidentiel,
on est énervé, mais on est énervé, mais on dit mais la prochaine fois, je ferai mieux et je vais me battre. Voilà.
Mais avez-vous une seconde pensé qu'il était possible d'être président de la République en 2022?
Bien sûr. Mais si on se met sur une ligne de départ dans une compétition sans se dire que l'objectif c'est d'arriver premier, mais c'est pas la peine de s'aligner. Et là, je vous fais une parabole avec une compétition sportive, mais en politique. Quand on se présente à une élection nationale, il faut parler aux Français avec l'ambition d'être président de la République et donc d'avoir des réponses à apporter aux problèmes que vivent les gens. Et de pouvoir leur dire, demain, si je suis président de la République, sur cette question-là, voilà comment je ferai. Si on ne fait pas ça, si on ne parle pas avec cette ambition-là, en prenant ce plus que le costume, mais vraiment en ayant une ambition forte pour son pays, eh bien, en fait, on parle comme un tract. On parle comme un militant. Enfin, on parle qu'au sien. Moi, je me suis présenté à l'élection présidentielle avec l'ambition d'être président de la République et de parler à tous les Français. Et c'est comme ça aujourd'hui que je m'engage tous les jours dans ma vie de député, dans ma vie d'élu local, dans ma vie de responsable national de parti, de chef de parti. Oui, il faut qu'on parle, qu'on porte des propositions, parfois qui peuvent être en contradiction avec ce que mon propre parti défend.
Ça arrive ?
Bien sûr que ça arrive. Mais il faut être capable de pouvoir répondre aux problèmes des Français sur des sujets où on a des propositions qui ne sont pas forcément en phase. Et voilà. Et moi, je le dis à mes camarades. Je dis attention, là, on n'est pas bon. Il faut qu'on change. Il faut qu'on puisse s'adapter. Il faut qu'on puisse, par exemple, mettre un calendrier pour mettre en place certaines choses en disant on ne fera pas tout de suite.
Alors justement, si on parlait marketing, on dirait votre marque. Parti communiste français, c'est une marque qui a aussi, en France comme ailleurs, parce qu'à une époque, le parti était lié à d'autres partis frères, un lourd passif.
Pas que.
Mais aussi.
mais pas que. Parti communiste français, il a des racines en France. Il a une histoire en France. Son originalité est liée à notre histoire nationale. Un parti donc national et un parti internationaliste. On me pose souvent la question, on me dit, pourquoi vous changez pas de nom ? Parce qu'en plus, avec la campagne que vous avez menée à la présidentielle, vous feriez beaucoup plus si vous ne vous appeliez pas communiste.
Mais c'est pas la question que je vous ai posée, parce que je peux imaginer qu'il y a encore une pertinence pour être communiste, mais ça n'exclut pas aussi de regarder en face le passé.
Mais vous me parlez d'une marque qui a un passif. En politique, je pense, mais je peux me tromper, que c'est pas forcément du marketing, ou en tout cas, pour nous, c'en est pas. Certains le font. Et certains, en France, qui ont des gamelles, qui ont eu des procès, qui portent vraiment... qui ont été au pouvoir, et que les gens ont rejeté, changent de nom. Et il y en a comme ça, qui changent de nom comme ils changent de chemise.
Et ils se refont une virginité.
Je ne sais pas s'ils se refont une virginité.
Mais c'est l'espoir.
En tout cas, ils n'ont pas le courage de ce qu'ils ont fait. Et ils pensent qu'en changeant de nom, ils changent d'image par rapport aux gens. Nous, avec notre nom, qui porte, vous me dites, vous, un passif... Moi, je dis que nous pouvons être fiers de notre histoire. Nous,
je dis aussi un passif. Ouais, c'est pas à charge.
Nous avons une histoire. Nous avons écrit parmi les plus belles pages de l'histoire sociale française. Nous avons aussi des pages noires. Nous avons aussi commis des erreurs de jugement, d'analyse, d'appréciation. Mais nous voulons nous présenter aux Français tels que nous sommes. Et donc, sans renier cette histoire.
Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être communiste en France par rapport, par exemple, à ce que ça signifiait pour un ouvrier des années 60?
Bien, ça veut dire, c'est toujours défendre la dignité humaine. C'est mettre le respect de l'être humain au cœur de la société que l'on veut bâtir. Le respect de l'être humain. L'humain d'abord. Mettre l'être humain au cœur de tous les choix. Moi, je n'ai que ça à la bouche parce que c'est ce qui manque le plus. Aujourd'hui, ce sont des choix... La dignité humaine, la fraternité humaine, disent mes camarades chrétiens. Mais c'est ce qui manque le plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ce qui domine, c'est l'économie, la finance et les rapports de force. La guerre, les conflits, les tensions. Nous sommes restés bloqués dans l'humanité, comme si on règle encore les choses comme il y a 2000 ans, par des rapports de domination, de conflit. C'est comme si l'humanité n'arrive pas à progresser.
Mais c'est pas une affaire de parti. Si c'en était une, je vous dirais par exemple au bilan du passif, les grands partis communistes du 20e siècle ont fait des ravages colossaux.
Mais je suis d'accord avec vous. Je les condamne, je les dénonce. Nous les avons dénoncés. Les morts, les crimes de Staline,
de Mao,
les goulags, la répression. Oui, mille fois oui, mais je vous dirais, il n'y a pas de Mehamet d'ailleurs. Je dirais que toutes les nations et tous les partis se sont construits sur des ruines, des cendres, des drames. Et il faut réussir à imaginer le monde d'aujourd'hui autrement. Il faut réussir à remettre de l'humain, de la fraternité humaine, et se dire, nous réglerons nos problèmes par le dialogue, par l'échange, en faisant un pas l'un vers l'autre, mais arrêtons de nous foutre sur la gueule. Et c'est que ça, nous ne sommes que dans des rapports de domination, mais on peut le traduire dans plein de domaines. Regardez, les rapports femmes-hommes restent des rapports de domination. Les rapports entre pays restent des rapports de domination.
Nous vivons encore dans un patriarcat, c'est ce que vous dites.
Oui, oui, bien sûr. Nous n'arrivons pas à sortir de ces rapports-là. Et c'est quoi être communiste aujourd'hui? C'est dire, justement, ces rapports de domination, nous voulons les faire sauter, nous voulons construire des rapports d'égal à égal, en mettant l'être humain, le respect de l'être humain, de la dignité humaine, au cœur de tous nos échanges, de toutes les propositions, de toutes les solutions qu'on doit apporter à la société.
Alors, je vous crois et je suis curieux de ce qu'est votre démarche. Et s'il vous plaît, ne lisez pas ma question en pensant qu'il y a quelque chose de vicieux qui s'y cache.
Allez-y.
Vous arrivez assez jeune en Indochine.
Au Vietnam.
Oui, c'était une blague. En 82 ou 83,
ouais.
Votre père est correspondant pour l'Humanité. L'expérience horrible du Kampuchea démocratique qu'on pourrait associer à la gauche se terminait. En fait, moi, je me posais la question, quand on est gosse, enfant, que son père a été témoin de tout ça, qui vous en a sans doute parlé.
Bien sûr. Hein.
Est-ce que ça ne dégoûte pas de ce que peut être la gauche?
Mais pas du tout, rien à voir. Mais rien à voir, parce que justement...
Donc c'est une mauvaise question ?
Non, pas du tout. Je vais vous dire comment je l'ai vécu, parce que je m'en souviens très clairement. Mon père est allé voir les charniers des Khmers rouges. Et comment Pol Pot, j'ai encore ses noms en tête, j'ai encore des images qu'il m'a ramenées, les témoignages qu'il m'a rapportés. Les Khmers rouges ont commis un génocide. Ils ont tué... je n'ai plus les chiffres en tête, des centaines de milliers, de millions de Cambodgiens, leur propre peuple. Un Cambodgien qui portait des lunettes était un intellectuel, il fallait le tuer. Voilà. Et il se disait les Khmers rouges, mais ils n'avaient rien de gauche, ces gens-là. C'est des génocidaires, c'est même pas des dictateurs, c'est plus des êtres humains, c'est des barbares. Ils ont été jugés, condamnés par le régime qui a suivi, communiste d'ailleurs, et ces mêmes Khmers rouges ont été chassés par les Vietnamiens, le Vietnam socialiste, communiste, qui est intervenu au Cambodge. Et je sais qu'à cette époque-là, justement, l'Occident, la communauté internationale dénonçait l'intervention du Vietnam, au Cambodge. Alors que nous, on était sur place, on disait, mais il y a un massacre.
Mais ça ressemblait, ça ressemblait étrangement quand même à ce que les Chinois, avec la main de fer, la main ferme de Mao, avaient imposé pendant la révolution culturelle. Donc, pour moi, c'est, je ne sais pas de faire d'amalgame. Plutôt, c'est dans le parcours. Est-ce que vous avez déjà eu des doutes ou rien n'a teinté et peut-être n'a changé votre tentation d'avoir le cœur à gauche?
J'ai des doutes sur le cœur à gauche, non, mais des doutes sur le sens de notre, enfin, de mon engagement, sur comment faire, j'en ai tous les jours. Mais je pense que le doute est plutôt quelque chose de d'humain et de salvateur, dans le sens où il faut jamais être comment dire têtu, sûr et certain, et il faut toujours douter un peu quand même. Ça permet d'être mieux à l'écoute. Mmh. Mais par rapport à l'histoire et par rapport aux crimes commis, non, parce que pour moi, ceux qui ont commis des crimes, des génocides, pour moi, ne l'ont pas fait au nom de l'idéal que moi je défends. C'était des barbares, c'était des dictateurs, c'était des dirigeants autoritaires. Ils ont été condamnés pour ça, ou condamnés par des instances voilà, ad hoc, hein, ou condamnés par l'histoire, et condamnés par nous-mêmes, Parti communiste. Et donc, je n'ai rien à voir avec eux, ni avec cette histoire-là.
Mais je ne faisais pas d'amalgame, je m'intéressais davantage à ce que dans votre parcours, ça ait pu teinter
non,
votre réflexion.
Mais par exemple, j'ai vécu
Georges
Vietnam.
Marchais n'était pas un leader politique, je dirais, autre chose qu'assez autoritaire lui-même, non?
Non, je pense pas. Et d'ailleurs,
Georges Marchais. Vous l'avez
bien connu. Ouais, je l'ai connu, bien sûr. Et Georges Marchais, quand moi j'adhère au Parti communiste français, c'est lui qui fait le choix de prendre plus que de la distance avec le Parti communiste soviétique, l'URSS de l'époque, en appelant à construire un socialisme à la française et débarrasser de la tutelle. Soviétique. Et donc.
Et j'allais dire bien instrumentalisé par Mitterrand en 1981 d'ailleurs.
Ouais, bien sûr. mais donc, on a. C'est pour ça que je dis qu'on a construit notre propre chemin, notre propre voie. Et moi-même, dans cette histoire-là, j'ai construit ma propre voie aussi.
Vous avez toujours été de gauche?
Bah, quand j'étais ado. Bah, je pense à partir du moment quand je fais le choix de m'engager pour la libération de Nelson Mandela et contre l'apartheid, je me sens clairement de gauche.
Mais le paradoxe, je vous répondrai d'un point de vue canadien, c'est qu'un de ceux qui a été le plus aux manettes pour le faire libérer est un premier ministre conservateur canadien, Brian Mulroney. Il y a un paradoxe, parce que je pense qu'il avait vu clair aussi, mais il n'y avait pas que la gauche qui militait pour changer les choses en Afrique du Sud.
Bien sûr, mais par exemple, en France, c'était Mitterrand qui était président de la République, c'était Laurent Fabius qui était Premier ministre, et nous menions une campagne contre eux, contre Laurent Fabius, parce qu'il continuait de fournir des armes à Botha, le président de l'apartheid et le premier ministre de l'apartheid, et ils étaient, eux, de gauche. Et donc, vous voyez la contradiction. Et c'est pour ça que, au-delà des étiquettes, il y a des combats qui doivent nous rassembler. Et moi, je dis que ces combats-là, c'est la gauche qui doit les mener, qui doit s'en emparer, qui doit être sans ambiguïté là-dessus. Et j'ai regretté qu'à cette époque, ce n'était pas le cas pour tous les partis de gauche.
J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes, c'est une promesse, pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde, de nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Mais vous posez très très bien la table avec cette question des étiquettes. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui que d'être communiste et à gauche? Faut-il faire une distinction entre les combats sociétals et sociaux? J'ai l'impression qu'il y a une certaine gauche qui est davantage intéressée par les combats sociétaux, appelons-les comme ça, davantage que sociaux, et qui, sur les enjeux de dignité, de salaire, de ce qu'était à une époque la classe ouvrière, qui existe moins, mais néanmoins, des gangs petits, il y en a toujours, sur ces enjeux, se désintéressent. Alors, est-ce que le Parti communiste, lui, a une vision plus sociale des choses, où le progressisme dans les enjeux sociétaux est aussi important pour vous?
D'abord, pour moi, les questions sociétales comme sociales ne doivent pas s'opposer. Et on doit pouvoir les porter autant l'une que l'autre. Autant les questions sociales que les questions sociétales. Il ne faut pas les opposer. Et aucune ne doit dominer l'autre. Voilà, ça, pour moi, c'est clair. Ça veut dire que, par exemple, dans les questions sociétales, je vais mettre la question de la parité, de l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Mais je vais mettre aussi la question du racisme et de l'antisémitisme. Je vais mettre la question de l'égalité des droits et de la citoyenneté. Ça, pour moi, ce sont des questions essentielles, importantes, sur lesquelles on doit tenir bon. Et de l'autre côté, il y a la question de la dignité humaine aussi au travail, le respect de chaque citoyen, de chaque homme et de chaque femme. Quand je reçois dans ma permanence des femmes, j'ai noté ici Zora qui travaille à Monoprix, 36 ans d'ancienneté, 1500 euros net, parce que dans le commerce...
Par mois.
Parce que en France, dans le commerce, on est bloqué à l'échelon 2.2. Ça veut dire qu'on n'évolue pas. On peut rester 36 ans avec un salaire qui va prendre 50 euros en l'espace de toute sa carrière. C'est inadmissible. C'est inhumain. Quand j'explique ça au Premier ministre, il me regarde avec des gros yeux, comme si je racontais une ânerie. C'est la réalité. Ou alors, des retraités, j'ai Léon, là, sous les yeux, qui a 980 euros de retraite depuis des années, mais aujourd'hui, 980 euros de retraite ne lui permet pas de vivre. Et elle vient me voir pour me demander un logement social parce qu'elle a dû quitter sa maison, qu'elle ne peut plus payer, et elle habite chez sa fille qui a 4 enfants. Et elle me dit, c'est pas possible, je dors dans le salon, cette pauvre dame qui a travaillé toute sa vie, qui se retrouve avec 980 euros. Et là, je suis révolté.
C'est mon révolté.
Le sens de mon engagement, il naît de là. Et donc, entre ces questions sociales dont je viens de vous parler et les questions sociétales que j'ai citées en exemple, pour moi, elles ne s'opposent pas. Et il faut les mener de front.
Alors, je suis avec vous, mais j'ai le sentiment, sinon la certitude, que les histoires de Zora et de... Comment ça s'appelle ?
Léon.
Intéressent beaucoup moins, ont beaucoup moins d'impact et effectivement passent sous l'écran radar de beaucoup de politiques. Comme si c'était des gens auxquels on pouvait renoncer.
Et pourtant, moi, je vais partout, dans les médias, dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale.
Mais vous entendez ce que je dis.
Avec ces fiches, et moi je veux parler de ça. Je veux parler de ces personnes que je rencontre, et derrière ces personnes, parfois il y a des métiers, parfois il y a des services publics, il y a des enjeux essentiels pour notre pays, tels que l'école, la santé, qui sont aujourd'hui détruits. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, je le redirai là dans les jours qui viennent, je trouve que Emmanuel Macron, aujourd'hui, en endossant ses habits militaires, ses accents guerriers, ses coups de menton où il annonce qu'il va envoyer des troupes en Ukraine, en faisant ça, il fait une opération pour complètement effacer l'actualité sociale et nationale. Il ne veut pas que l'on parle de ce que vivent les Français, la pauvreté qui grandit, des travailleurs pauvres. Et donc, il fait tout pour qu'on n'en parle pas. Il
nous donne
c'est la diversion. C'est maléfique, quelque part. Mais c'est sa manière à lui de masquer la guerre sociale qu'il mène aux Français en voulant mettre la guerre militaire en Ukraine. Mmh. Il permet que l'on ne parle plus de ce que vivent des millions de nos concitoyens. Et ça me fout en rogne. Et c'est pour ça que moi, je veux en parler. Je veux dire non, il faut qu'on s'occupe de ce que vivent les Français. Il faut augmenter les salaires, augmenter les retraites, sauver nos services publics, maintenir nos usines ici menacées. Enfin, voilà, c'est le sujet qui devrait tous nous préoccuper. En tout cas, moi, c'est ce sujet-là dont je veux parler.
Est-il possible que la gauche ou les gauches aient oublié ces gens dont on parlait à l'instant?
Oui. Oui, je vous le dis, oui. Oui, je pense. Et je pense, et même mon parti, à un moment donné, qui a toujours été le parti du monde du travail, a toujours défendu le monde du travail, à un moment donné, a plus mis en avant les questions sociétales que les questions sociales. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le monde ouvrier, le monde du travail, s'est senti un peu abandonné, parce qu'il n'y avait plus de voix à gauche qui les défendait.
Et ça fait l'affaire du capital, entre vous et moi.
Ah ben, carrément. Et donc... moi, j'ai voulu justement mettre ces questions-là au cœur de notre combat. Le monde du travail, la dignité humaine, faire en sorte de reprendre la main sur nos vies et empêcher cette domination du capital. Unir le monde du travail. Ils font tout pour nous diviser. Ils font tout pour nous diviser. Opposer privé, public, jeune, vieux, banlieue, rurale. Tout est fait pour que les Français se foutent sur la gueule, pour nous diviser. Et notre responsabilité à nous, à gauche, et à moi, en tant que Parti communiste français, c'est de dire non, soyons unis, forts, pour défendre notre cause, pour défendre notre bout de gras, pour défendre notre salaire, pour défendre notre emploi, nos écoles, nos hôpitaux. On doit s'unir.
Vous avez dit, je pense, la semaine dernière, on fonce sur l'autoroute de la guerre civile, mais alors là, vraiment, pied au fond, c'est l'intention presque de ceux qui sont aux opérations aujourd'hui. Vous le croyez toujours?
Ouais. Oui, je pense toujours.
Et... C'est délibéré?
Non, c'est pas délibéré. Alors, vous parlez de guerre civile, c'est-à-dire situation sociale en France. Mm-hmm. Pas la guerre militaire en Ukraine.
Nous y reviendrons. Bon, je vous parle de civile. La France, de ce qui se joue ici à basse intensité.
Il y a un risque d'explosion sociale. Il existe parce que les Français n'en peuvent plus. Et le meilleur moyen pour Emmanuel Macron d'éteindre l'incendie, c'est de créer un climat de peur, d'angoisse, anxiogène. C'est ce qu'il fait. Ce climat de peur, la guerre notamment, produit des effets. Ça produit ses effets. C'est que les gens se réfugient chez eux, sont gagnés par la peur du lendemain. Et ça fait taire toute envie de résister, de s'unir, de lutter, de manifester. Voilà. Parce que ce climat, aujourd'hui, il met un étouffoir sur toutes les mobilisations. Puis entre nous, ce qu'on a vécu sur la réforme des retraites, où pendant 6 mois, on a manifesté. Au début, des manifs immenses, pacifiques, familiales. Et ce gouvernement nous a méprisés, balayés d'un revers de main. 80% des Français ne voulaient pas de cette réforme. Tous les syndicats étaient contre cette réforme. Il nous a rejeté, méprisé. Qu'est-ce que vous voulez que ça produise en France? Ça produit de la colère, de la résignation et de l'abstention. Voilà ce que ça produit. Et notre démocratie, elle souffre de ça.
Et l'enjeu ukrainien, pour vous, est une manœuvre politicienne et non pas le fait d'un grand président qui se met dans une espèce de posture gaullienne qui dit « S'il le faut, envers et contre vous, Français, je me mettrai en travers de l'ours russe. »
Enfin, mais on dirait un petit caniche qui aboie devant un grand ours blanc. Enfin, il fait peur à qui? Non mais c'est ridicule, il est ridicule. Il est ridicule, entre nous. L'armée française, elle va être capable de déployer quoi? 20 000, 30 000 soldats? Quand l'armée russe est 1 300 000? C'est ridicule. Mais c'est dangereux. Mais c'est dangereux. Parce que Poutine est dangereux. C'est un dictateur nationaliste que je qualifie même d'extrême droite. Il est dangereux. Et le moyen de le contenir, c'est pas de le menacer avec les petites troupes qu'on a. C'est pas ça. La manière de le contenir, c'est de faire en sorte d'abord de continuer d'aider l'Ukraine, de lui fournir les missiles, les obus, les armes.
Que vous n'arrivez pas à produire d'ailleurs.
Mais bien sûr, c'est déjà ça, enfin. Et donc, au lieu de bomber le torse en disant envoyer des troupes, Zelensky ne demande même pas de troupes. Il demande des missiles, des obus, des armes, des canons, des tanks.
Mais ça dit quelque chose aussi de la capacité manufacturière de la France.
Hein. Mais de la France et de l'Europe. Donc, le meilleur moyen de contenir Poutine, c'est que l'industrie militaire, les armées, les pays de l'Europe soient unis, réussissent à répondre à la demande, aident l'Ukraine à se défendre sans devenir co-belligérant. Parce que nous devons aussi tout faire pour ne pas entrer dans une troisième guerre mondiale, pour ne pas déclencher une troisième guerre mondiale avec des puissances nucléaires en jeu et des fous comme Poutine prêts à l'utiliser.
Mais vous croyez à cette possibilité de ce que nous puissions dériver, sans le vouloir personne, vers quelque chose qui ressemblerait à une troisième guerre mondiale?
Oui, parce que il faut relire l'histoire. Vous me demandiez au début de l'échange si j'avais des temps à moi pour lire, réfléchir. Je relis des livres d'histoire en ce moment, qui racontent comment la guerre 14-18 est née, par exemple. Et qui, au début, pensait que ça deviendrait la Première Guerre mondiale?
Et je pense que c'est le meilleur parallèle des deux grandes guerres.
C'est exactement, c'est le meilleur parallèle, c'est ça.
Deuxième.
Tout à fait, vous avez entièrement raison. Et c'est pour ça que je relis beaucoup comment est née la guerre 14-18. Mais aucun chef d'État ne se disait « on va se faire une Première Guerre mondiale ». Et personne ne l'espérait, personne ne le voulait, personne ne l'imaginait même. Seul Jean Jaurès et quelques politiques voyaient poindre le risque d'un embrasement généralisé et ils le dénonçaient. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est fait tuer par un extrémiste. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 14? C'est le jeu des alliances, le jeu complexe des alliances. La Serbie, l'Autriche, la France, l'Angleterre, ping, 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 l'escalade. Et à la fin, les pays d'Europe qui se foutent dessus, par le jeu complexe des alliances. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est exactement la même chose. Une escalade verbale, une escalade militaire. La France qui signe un traité là, que nous n'avons pas voulu voter pour ça, qui signe un traité avec l'Ukraine, qui dit dans un article, le premier, que si la Russie attaque l'Ukraine, la France vient s'engager aux côtés de l'Ukraine.
Ben c'est déjà fait. Hein.
Ben oui. Donc c'est l'autorisation pour la France d'entrer en guerre contre la Russie. Mais c'est un truc il faut arrêter ça. Donc c'est pour ça que nous on dit stop à l'escalade.
Mais politiquement, parce que vous êtes évidemment pas dupe, le président Macron avait clairement l'intention de vous montrer du doigt ensuite en disant
c'est
vous
une opération politique.
Poutinien, ouais. Vous appuyez ce régime horrible. Ouais. Même chose avec la droite, d'ailleurs, ou l'extrême droite.
Ouais.
On va montrer Marine Le Pen en disant elle a refusé d'appuyer le projet.
Mais
donc
c'est honteux de dire ça. C'est honteux. C'est honteux quand on dit, nous, il faut aider l'Ukraine, il faut armer l'Ukraine. Il faut l'aider à se défendre. Mais il ne faut pas entrer en guerre directe avec la Russie, parce qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. C'est ce qu'avait dit Macron au début de la guerre, et c'est ce qu'avaient dit tous les pays de l'OTAN. Nous, nous restons sur cette position-là. Nous et d'autres partis. Et quand le président de la République nous répond en nous traitant de... Quand on dit ça, qu'on serait pro-Poutine, quand on dit qu'il ne faut pas envoyer des troupes en Ukraine, on est pro-Poutine, on est des traîtres, des capitulards. C'est scandaleux de parler comme ça, parce que le sujet est important, il est grave. Aujourd'hui, il y a un sondage qui est sorti là, 70% des Français ne veulent pas que l'on envoie des troupes en Ukraine, ne veulent pas d'une confrontation directe entre la France et la Russie. 70% des Français sont des capitulaires, des pro-Poutine, mais je crois pas. Aujourd'hui, 100% des Français ne veulent pas considèrent que Poutine est une menace et qu'il faut la contenir. Mais nous pensons que nous n'allons pas la contenir en entrant en guerre contre lui. Et donc, c'est bien pour ça que l'on veut faire remettre en avant dans le débat la question politique, diplomatique, les négociations. Comment on contient Poutine? Comment on peut ouvrir des négociations aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on met sur la table? De tout ça, on n'en parle pas. Et dès que l'on met ça sur la table, on se fait traiter de capitulard.
Ce que vous refusez d'endosser comme...
Mais bien sûr.
Comme oripeau. Avant qu'on ne parle de Gaza, parce que voilà une autre guerre qui a retenu votre attention, vous êtes allé d'ailleurs dans la région.
Tout à fait.
S'il fallait que la Russie intervienne plus directement en Moldavie, par exemple, est-ce que vous pensez que ce serait, de votre point de vue, des circonstances aggravantes qui mériteraient de réviser notre manière de réagir?
Ben je c'est pas possible. Il n'y a pas de frontière directe.
S'il décidait de
il faudrait qu'il...
Oui,
mais ça voudrait dire que aujourd'hui, le front, il est contenu à l'est de l'Ukraine. Et d'ailleurs, ce qui prouve...
Mais ils n'ont pas renoncé non plus à terminer leurs opérations en Ukraine. En fait, on pourrait poser la question aussi sur les pays baltes, puisqu'on nous dit qu'il y a une menace qui pèse sur les pays baltes.
Vous... Mais ça aussi, ça, c'est les discours pour entretenir la peur. L'ensemble des pays de l'Union européenne et des pays baltes notamment sont aujourd'hui membres de l'OTAN. Et au nom de l'article 5, si un de ces pays est agressé, l'ensemble des pays s'unissent pour faire face à l'agresseur. Et je dis ça en plus en sachant que nous, l'OTAN, on souhaite la transformer, on considère que c'est pas la bonne alliance. Mais pour autant, aujourd'hui, elle nous protège. Mmh. Et donc, je ne vois pas demain Poutine s'en prendre à un pays membre de l'OTAN. Parce qu'il déclencherait là un embrasement généralisé, une guerre totale et nucléaire. Et donc, il faut arrêter de nous faire peur avec ça. C'est pas possible. L'Ukraine...
Mais je ne voulais pas vous faire peur. Non. J'ai entendu plusieurs dirigeants dire « Attention, il y aura une prochaine étape. »
Oui, mais ça, c'est des... Enfin...
D'accord.
Et les mêmes qui disent ça, je leur dis « Ah oui, alors on fait quoi ?» Et donc, on fait quoi ? Donc, comme vous voulez anticiper la prochaine étape et que vous avez peur de cette prochaine étape, vous voulez faire quoi aujourd'hui ? Moi, je leur envoie la question. Mmh. Donc, vous faites quoi ? On fait quoi ? Les troupes, on les envoie même... c'est pas en Ukraine qu'il faut les envoyer. C'est à Moscou. On fait une grande marche vers Moscou. On attaque le Kremlin. Mais je pose la question directement à ceux qui me disent « La prochaine étape, c'est ça. Bah, » Alors, on fait quoi maintenant aujourd'hui ?
Ça a pas été de très grand succès au 19e siècle, au 20e siècle, que les grandes balades vers Moscou.
Ah, ben il y en a un qui a fait ça, il s'appelle Napoléon, et il en est ressorti la Bérézina, hein, c'est le pont qui porte ce nom.
Mais c'est ce que je vous dis, au XXe siècle, les Allemands ont parfaitement mieux.
Ben, bien sûr, donc, bon. Voilà, non, mais c'est surtout, enfin, on est au XXIe siècle. Quand est-ce que l'humanité va apprendre à régler ses problèmes, ses conflits, autrement que par les armes et le son du canon? C'est la grande question que l'humanité doit se poser. C'est la grande question que les chefs d'État devraient mettre à l'ordre du jour. Nous avons créé une ONU au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec un mot d'ordre, plus jamais ça. 60 millions de morts. Plus jamais ça. Or, aujourd'hui, c'est comme si l'histoire bégayait et que l'on continuait de l'écrire avec des armes de guerre. J'appelle les chefs d'État qui sont aujourd'hui aux commandes de remettre à l'ordre du jour les questions diplomatiques pour régler les conflits.
30 000 morts et même davantage à Gaza.
À Gaza.
Je sais que vous êtes très sensible à ce qui se passe là-bas. Vous avez fait un parallèle entre Gaza et le ghetto de Varsovie que vous avez ensuite un peu regretté. Mais ça dit quelque chose de ce que vous avez ressenti et de ce que vous saviez aussi.
Oui. Parce que les gens que j'ai rencontrés sur place, nous avons été la première délégation politique à nous rendre début mars là-bas, accompagné de Philippe Rio, maire de Grigny, la maire de Mitry-Mory, Charlotte Blondiot-Farid, et nous avons été bouleversés par les témoignages entendus de ceux qui essayent de faire de l'humanitaire à Gaza. Où aujourd'hui, je relisais un article ce matin, c'est la FAO, l'organisation de l'ONU qui gère l'alimentation, dit « la famine est là ». Il y a 4 enfants...
Non, c'est pas virtuel.
Non, il y a 4 enfants pour 10 000 habitants qui meurent de faim en ce moment. Et ça va être une catastrophe humanitaire la plus importante de ce 21e siècle par son nombre, par son ampleur. La FAO dit, on a déjà connu des cas de famine, de populations assiégées et mourant de faim dans des conflits. On a vécu ça au Soudan, on a vécu ça en Somalie, mais c'était quelques milliers d'habitants concernés. Là, c'est 2 100 000 habitants. C'est la taille de la population de Paris, enfermée, la mer d'un côté, des murs de l'autre. Enfermés, 2 100 000 habitants enfermés, assiégés, bombardés, et affamés. J'ai cherché une comparaison, j'en ai fait une malheureuse, je l'ai retirée, mais voilà. Comment on fait prendre conscience à tous les chefs d'État, à l'humanité, à la population, à tous les peuples du monde, que ce qui se passe là-bas est une horreur infinie? Et comment on fait en sorte de peser de tout notre poids sur le gouvernement de Netanyahou, responsable de ce massacre, pour qu'il arrête? Quelle responsabilité on va avoir devant l'histoire demain? Pour tous ceux qui auront laissé faire. Vous imaginez? Dans les livres d'histoire, qu'est-ce qui va rester de ça? C'est terrible. Et en plus, ce massacre, il se fait, tous les jours on a des images terribles. avec c'est sur toutes les télés du monde. Mais vous imaginez ce que ça va produire comme ressentiment.
Comme déferlante de haine.
Comme colère. Comme... Ça nourrit la haine. Ça la nourrit. Et donc, il faut y mettre un terme le plus rapidement possible. Avec, voilà, remettre l'être humain, l'humanité au cœur. Je reviens à ça, mais ce qui se passe est profondément odieux. Alors, il y a Gaza, il y a les camps de réfugiés, il y a la Cisjordanie, enfin...
Vous avez aussi dénoncé assez sévèrement, et je peux le comprendre, le 7 octobre, le Hamas, pour ce qu'il a fait. Mais avec qui négocie-t-on aujourd'hui? Quand on voudra trouver une solution durable, M. Netanyahou a déjà clairement indiqué que la solution à deux États était inopérante depuis le 7 octobre. Je pense que c'était inopérant dans sa tête bien avant le 7 octobre. Mais donc, il le dit officiellement. Et avec qui parler? Parce que le Hamas a été élu il y a 18 ans.
Et le Hamas est une organisation terroriste responsable d'un des massacres, un pogrom. C'est comme ça qu'on doit l'appeler, quand on massacre une population juive, innocente, civile, femme, enfant, avec le viol comme arme de guerre, et en plus en prenant des otages, et je pense encore à eux, puisque certains sont, enfin, plusieurs dizaines sont encore aujourd'hui retenus, le Hamas s'est disqualifié. Bon.
Donc et, plus jamais il ne pourrait être vis-à-vis.
Il y a à côté l'OLP. L'Organisation de libération de la Palestine, qui réunit des organisations politiques, quinzaine, pour une Palestine libre, démocratique et laïque. Et laïque. Le Hamas, c'est un califat qu'ils veulent construire, mettre en place, sur le territoire de la Palestine, de la mer au Jourdain, c'est-à-dire en effaçant l'État israélien. Et donc, son projet est mortel. Et il doit être combattu, le projet du Hamas. En revanche, à côté, il y a l'OLP, qui réunit toutes les autres organisations politiques, qu'il faut restaurer, à qui il faut refaire confiance. Et si aujourd'hui, l'OLP n'a pas le même écho dans la population palestinienne.
Ben alors, ils ont même très fortement boudé à Gaza.
C'est bien parce que ils ont été... méprisé. Monsieur Netanyahou porte une lourde responsabilité en les traitant comme moins que rien. L'accord historique que passe Yasser Arafat avec Yitzhak Rabin, les accords d'Oslo, et qui devait donner un État palestinien à côté d'un État israélien selon les frontières de 67. En fait, cet accord n'ayant jamais été respecté, parce qu'il y a eu la colonisation. Il y a eu la colonisation s'est développée. Le gouvernement israélien occupe la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Et bien, à cause de ça, l'OLP vis-à-vis des Palestiniens a été discrédité, parce que les Palestiniens ils ont dit mais enfin ils ont signé un accord mais on est maltraités. Et l'autorité palestinienne se battait comme il pouvait pour dire respectez-nous, respectez-nous, sans faire le choix des armes, sans faire le choix du terrorisme. Et ils ont eu raison. Mais, résultat des courses, ils sont aujourd'hui discrédités. Et donc, ce qu'il faut, c'est bien sûr mettre de côté... je ne vois pas comment on peut parler avec une organisation terroriste qui a commis les crimes qu'ils ont commis le 7 octobre, je pense au Hamas. Mais de l'autre côté, il faut maintenant trouver les moyens de créer un État palestinien selon les frontières de 67, aux côtés d'un État israélien, et le faire avec l'OLP, qui est l'organisation légitime pour le faire.
Et il faut reconnaître l'État palestinien avant même qu'il ne soit place, comme les Espagnols l'ont fait.
Et tout à fait, c'est ce que j'ai demandé au président de la République la semaine dernière, quand nous nous sommes vus. Je regrette qu'il ait balayé ça comme ça.
Et comment expliquer qu'on puisse publiquement, le Canada fait partie du club, publiquement dire nous sommes favorables à une solution à deux États sans jamais reconnaître, même virtuellement, l'État palestinien?
Mais parce que c'est une, encore une fois, c'est de la politique, c'est de la diplomatie. Et que la France, le Canada, l'Espagne, et si la France reconnaissait l'État palestinien, aujourd'hui, ce serait un signal politique fort que nous enverrions au gouvernement de M. Netanyahou et ils sentiraient le poids de la communauté internationale peser plus lourdement sur ses épaules. Et reconnaître un État palestinien, aujourd'hui, c'est aussi reconnaître un État agressé par un autre État, l'État israélien. Et c'est là où je dis qu'il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. L'Ukraine est occupée par la Russie. La Cisjordanie est occupée aujourd'hui, de la même manière, par les colons israéliens, 700 000. Et faire respecter les accords d'Oslo, faire respecter un État palestinien, eh bien, c'est demander au gouvernement israélien de retirer ses colons, d'arrêter la colonisation et de les retirer.
Le temps file et je sais que vous êtes pressé. Quand vous décrivez le programme potentiel, vous croyez qu'un jour on y arrive?
Mais si on ne met pas à l'ordre du jour, on n'y arrivera jamais. Et donc, avancer vers la création de deux États vivant côte à côte et en sécurité, c'est mettre ça à l'ordre du jour des discussions. Et donc, il faut le mettre à l'ordre du jour. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça n'avance pas. Et c'est pour ça que M. Netanyahou se croit tout permis et qu'il est en train de commettre les pires crimes contre l'humanité.
Vous avez déjà pensé, devenant secrétaire du PCF, que des enjeux extraterritoriaux, l'Ukraine et Gaza, se retrouvent presque au cœur de vos préoccupations quotidiennes?
J'aurais pas imaginé ça. Mais quand je relis l'histoire, justement, je vois que malheureusement, et dans nos 100 ans d'histoire à nous, puisque nous sommes nés en 1920, le Parti communiste français, nous avons toujours été aux côtés des peuples qui subissaient une agression et qui se battaient pour leur indépendance. Nous avons été aux côtés du peuple algérien, aux côtés du peuple vietnamien, aux côtés du peuple sud-africain contre l'apartheid, et ces guerres coloniales qui ont eu lieu, ou pour l'indépendance, nous avons soutenu les peuples qui voulaient se libérer et décider par eux-mêmes de leur avenir. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Et c'est bien pour ça que j'aimerais bien que nous arrivions à écrire une nouvelle page de l'humanité pour sortir de cette période de conflit et de guerre incessante.
Mais vous êtes un idéaliste, Fabien Roussel.
Mais je pense que si on n'a pas d'idéal, eh bien on reste chez soi. Mais quand on n'a pas d'idéal, qu'on reste chez soi, mais il faut en avoir et être très ambitieux. C'est quand on n'est pas ambitieux qu'on n'avance pas. Il faut être ambitieux. Parler de paix en période de guerre, ça peut paraître lointain et dérisoire, mais c'est pourtant peut-être comme ça qu'on arrive à la faire vivre.
Fabien Roussel, j'ai pris beaucoup de plaisir à cet échange. Je ne sais pas si ce fut vrai pour vous.
Si, c'était très sympathique. Le cadre est sympathique aussi. Voilà, vous êtes bien ici.
Est-ce qu'on aurait dû aborder d'autres enjeux ou on se garde ça pour la prochaine fois?
Ben, la prochaine fois.
Et bon rendez-vous, parce que je vous vois déjà consulter votre agenda. Merci à vous à la maison. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, partagez l'épisode. Abonnez-vous à notre chaîne, quelle que soit votre plateforme préférée. Marianne Grenon est notre productrice et recherchiste. Jeanne Croteau est à la réalisation. Stéphane Bureau, microphone. Monsieur le secrétaire du PCF, longue vie à vous.
Merci à vous. Merci. Au revoir.